Voilà, mes amis, on commence notre cours. On est dans une paracha extrêmement, extrêmement importante sur laquelle on pourrait parler pendant plusieurs millénaires, puisque c'est la paracha la plus importante de toute la Torah. Importante dans le sens négatif, puisque elle nous a coûté deux destructions de temples et quatre exils. Oui, la paracha des explorateurs. Comme la Torah le dit clairement, c'est à cause d'eux qu'il y a eu les deux destructions de temples et quatre exils. Ce cours, bien sûr, j'allais oublier, est à la mémoire de monsieur et de madame Cain. C'est un sujet extrêmement, extrêmement difficile et douloureux à expliquer, parce que les explorateurs, au départ, la Torah le dit clairement, étaient des gens très, très bien. Moshe n'a pas choisi des voyous. Moshe a choisi les chefs de tribu qui étaient de grands maîtres en Torah, qui étaient des gens d'un niveau très, très haut. Et puis, tout est tombé, et finalement, j'oserais presque dire, c'est pas moi qui le dis, mais j'ai du mal à le dire, c'est pas à cause du Erev Rav qu'on a eu deux destructions de temples et quatre exils, c'est vrai, ils nous ont causé la faute du Vaudor, dont on va parler aussi, mais c'est pas marqué au sujet de la faute du Vaudor que ça a causé les deux destructions de temples et quatre exils. C'est précisément des maîtres d'Israël qui ont amené deux destructions de temples et quatre exils. Et regardez Rashi, il le dit explicitement. Au départ, quand Moshe les a choisis, c'était des grands dans la Torah. Bon, il est vrai qu'on a ce genre de répétition dans notre histoire, que ce ne sont jamais les voyous qui nous causent les plus grandes catastrophes. C'est précisément ceux qui, au départ, sont des gens très grands. On a dans notre histoire, dans le Nar, dans la Bible, qu'elle a été celui qui a été lui aussi responsable, comme une chaîne bien sûr, mais de la destruction du premier temple et du schisme, Jéroboam. Jéroboam sur lequel la Torah, dit, enfin le Nar, la Bible dit clairement qu'il a été choisi pour régner sur les dix tribus parce que c'était le plus grand de sa génération. Comment ? Non, Jéroboam. Oui, mais enfin, David n'a pas fauté comme Jéroboam. Mais c'était une faute personnelle. Il n'a jamais fauté à l'égard du peuple. Attention, il y a une différence fondamentale. David a fait une faute personnelle. Mais il n'a jamais fauté à l'égard de la nation d'Israël. Jéroboam a démoli Israël. Il a amené des veaux d'or. Il a assassiné des milliers de personnes qui voulaient, des milliers de familles qui voulaient se rendre au temple. Il est devenu une très grande crapule, alors qu'au départ c'était un très grand homme. Nos maîtres disent dans le Talmud qu'il ressemblait à un palmier au pied duquel poussait de l'herbe. C'est-à-dire que tous les maîtres de son époque étaient comme de l'herbe par rapport à lui, qui était comme un palmier tellement il était grand. Et nos maîtres disent Torato que simla hadasha. Que sa Torah était comme un habit neuf, sans aucune tache. Et comment qu'il a pu tomber à ce point ? C'est pas facile. C'est pas facile quand on a le courage d'essayer de comprendre la Torah avec authenticité et ne pas se cacher les yeux. On se rend compte que finalement, c'est souvent les plus grands qui deviennent les plus dangereux. Les voyous restent des voyous. Mais ce n'est pas eux qui sont vraiment la cause première de tout le mal qu'il y a dans le monde. C'est des gens qui, au départ, ont un potentiel très très bien, et puis quelque chose se passe au moment où ils ont le pouvoir, au moment où ils ont, comme on va le voir avec les explorateurs, Jéroboam, jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir, était un homme extraordinaire. Il a pris le pouvoir, il est devenu fou.
À l'origine du mariage entre Isabelle et Ferdinand, qui a provoqué l'expulsion des Juifs d'Espagne. C'était le conseiller juif des rois.
Et oui, mais bien sûr. Et Torquemada, celui qui a poussé à l'inquisition, était un juif converti au catholicisme. Et donc, bon, bref. Je vais commencer le cours d'aujourd'hui avec cette phrase de nos maîtres dans le Midrash Rabba que j'ai déjà rapporté des milliers de fois. Nos maîtres disent qu'au moment de la délivrance finale, Hachem rassemble tous les tzadikim de toutes les générations et il leur dit, Banaï, asaktem betorati, avalamalo asaktem bemalchuti. Mes enfants, pendant toutes les générations, vous vous êtes occupés de ma Torah. Mais pourquoi ne vous êtes pas occupés, ne vous êtes-vous pas occupés de dévoiler ma malchut dans ce monde? Et les commentaires expliquent que, comme je vais l'expliquer aujourd'hui, en parlant des explorateurs, que finalement la grande erreur de beaucoup de maîtres de Torah, et encore une fois, ne prenez pas mal ce que je dis, chas v'shalom, je ne parle pas de personne, je parle de l'idéologie comme je vais le montrer dans quelques instants, c'est qu'on prend la Torah comme une finalité en soi. Ça veut dire, je mets les tefilines, je mange kasher, je fais Shabbat, voilà, je sers Dieu. Or, voilà que ce Midrash nous révèle que non, la Torah a été donnée pour dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde. La Torah n'est pas le but, la Torah est le moyen. Et c'est pour ça que Hachem dit à tous les tzadikim de toutes les générations, très bien, vous vous êtes occupés de ma Torah, mais qu'est-ce que vous avez fait pour me dévoiler comme roi de ce monde? Il a fallu attendre des millénaires jusqu'à ce que le Mashiach vienne, enfin un géant de la Torah qui comprend que la Torah n'est pas le but, mais le moyen. Et que je vous ai créé pour me dévoiler dans ce monde. Bon, c'est facile à comprendre. Pourquoi finalement on a tellement de mal, que ce soit les hommes de Torah, ou comme je l'ai déjà dit des milliers de fois, ou d'une manière générale, les hommes en général, pourquoi on a tellement de mal à dévoiler Hachem dans ce monde? Je l'ai déjà dit des milliers de fois, parce que pour dévoiler Hachem dans ce monde, il faut faire quoi? Il faut faire tomber tous les dictateurs, et tous les méchants, et toutes les puissances financières, politiques, économiques qui sont dans le monde, qui s'accaparent le monde pour eux. On a bien vu ce qui s'est passé là récemment avec celui qui s'est opposé à Poutine. Ils l'ont empoisonné, il est parti en Allemagne, il s'est fait soigner, il est revenu en Russie, on l'a mis en prison. Ça veut dire que, encore une fois, c'est très dur de s'attaquer au pouvoir de ce monde. C'est très 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 dur. Il y a trop d'intérêts financiers, il y a trop d'intérêts de ego qui sont en jeu. Alors mettre les tefilines, c'est facile. Manger kasher, c'est facile. Faire Shabbat, c'est facile. Mais se battre contre tous les méchants de ce monde pour dévoiler que le vrai roi, c'est Hachem, qui a le courage de le faire. Revenons aux explorateurs. Je l'ai déjà expliqué, il a fallu attendre Rabbi Shimon Bar Yochai pour dévoiler quelle est la véritable raison qui ont poussé les explorateurs à persuader Israël de ne pas rentrer en Eretz Israël. Alors il y a effectivement beaucoup de raisons qui sont données. Il y a au niveau de la vitrine de la Torah, j'appelle la vitrine parce que ce qu'on lit dans la Torah, ce n'est qu'un habit qui ne fait pas le moine et ni le rabbin. C'est-à-dire qu'en vérité, la Torah cache l'essentiel derrière les mots. Au niveau de la vitrine toraïque, quand on lit les versets, parce que bon, ils ont eu peur des Cananéens, etc. Mais tout ça, c'est une véritable vitrine. Heureusement qu'on a Rabbi Shimon Bar Yochai pour nous révéler le vrai secret dans le Zohar. Il dit qu'en vérité, que la raison qui ont poussé les explorateurs à tout faire pour ne pas rentrer en Israël, c'est parce qu'ils avaient compris, lorsqu'ils sont rentrés en Israël, qu'ils allaient perdre leur poste de dirigeant des tribus. Et qu'ils allaient être remplacés. Voilà. Et pourtant, ce n'était pas des politiciens, comme aujourd'hui. Comment ? Alors, je vais malgré tout, je vous étonner en nuançant un petit peu les choses, je vais vous expliquer de manière un peu plus profonde. C'est vrai que c'est l'ego. Ils ne voulaient pas perdre leur pouvoir. Ils ont compris qu'ils allaient être remplacés par d'autres dirigeants. Parce qu'eux ne pouvaient diriger Israël que dans le désert, mais pas en Eretz Israël. Et donc, ils n'ont pas voulu perdre leur pouvoir. Et finalement, ils ont tout fait pour convaincre Israël de ne pas rentrer pour qu'ils puissent rester au pouvoir. C'est vrai que le pouvoir aveugle. Mais heureusement, nos maîtres expliquent d'une manière beaucoup plus profonde. On l'a déjà toussé ce sujet, mais je vais l'expliquer de manière encore beaucoup plus profonde parce que toutes les parachiotes ces dernières semaines sont toutes liées les unes aux autres. Ça veut dire quoi? Ils ne voulaient pas perdre le pouvoir. C'était vraiment des voyous, d'accord? Comme nos politiciens aujourd'hui ou comme ceux dans le monde entier. Non, je ne vais pas le dire, ça. J'ai le droit de le dire, c'est mon avis. Et donc, ça veut dire quoi, ne pas perdre le pouvoir? Ça veut dire quoi? En vérité, sachez que la véritable raison qui les a poussés à ne pas vouloir perdre le pouvoir, c'est parce qu'ils commettaient une erreur fondamentale au niveau de leur compréhension de la Torah. Car rappelez-vous, et je l'ai déjà dit dans différents cours, que nous n'avons jamais reçu les premières tables, nous avons reçu les deuxièmes. Et la différence fondamentale entre les deuxièmes et les premières, je l'ai déjà expliqué, c'est que les premières, comme on l'a vu la semaine dernière, Rashi explicite, qui nous dit que les premières c'était une Torah guerrière, alors que les deuxièmes c'était une Torah de synagogue, c'est-à-dire une religion. Et je l'ai déjà expliqué, on va le revoir dans quelques instants, au niveau de la faute du veau d'or. Et on va le voir dans quelques instants, on va voir le lien entre le veau d'or et la faute des explorateurs. Mais revenons à la faute du veau d'or. La question que tous les commentaires posent, mais pourquoi le Erevra va demander à Aaron de participer à cette faute? Pourquoi? Qu'est-ce que Aaron il a à voir là-dedans? Pourquoi? Parce que, comme je l'ai déjà expliqué, ils ne voulaient pas remettre en cause la croyance, mais ils voulaient une croyance fondée sur la religion et non sur la Torah de Moshe. Moshe était un guerrier. Moshe, toute sa vie, s'est battu contre le mal. La première fois qu'il sort du palais, il voit un Égyptien frapper un Juif, il le tue. Il met sa tête à prix. Il est fait prisonnier, dénoncé par Dathan Vaviram, dénoncé par deux Juifs. On va le décapiter. Il arrive à s'enfuir. Il a 20 ans. Il va en Afrique. Il passe 60 ans en Afrique. Pendant 60 ans, il se bat avec les peuples opprimés pour les libérer de toutes les dictatures qu'il y avait dans ces régions-là. À 80 ans, il retourne à Midian. Il a 80 ans. Il voit des bergers poursuivre pour les violer ou pour les frapper les filles de Yitro. Il prend son bâton et tout seul, il arrive à les faire fuir. Il a 80 ans. Et le plus grand combat de sa vie, c'est quoi? C'est après retourner en Égypte et se battre contre Pharaon. Mais en fait, c'est pas ça le plus grand combat de sa vie. C'est quoi le plus grand combat de sa vie? Pendant 40 ans, supporter Israël dans le désert. Ça, c'est le plus grand combat de sa vie. Que des révoltes, que des ci, que des ça. Korah, on est dans le livre de Bamidbar, ça y est, on rentre dedans. D'accord. Ça veut dire que depuis l'âge de 18-20 ans, mais non, même avant déjà, à 3 mois, il est mis dans une corbeille où il a failli se noyer. Et après, il a quand même souffert. Il savait qu'il était juif, grandir dans la maison du plus grand dictateur de l'histoire humaine. Donc toute sa vie, c'est un homme qui est constamment confronté à des épreuves et un véritable combattant. Et c'est ça la Torah qu'il était censé nous donner, qui est la Torah de la malchoute, la Torah de la royauté. Si on avait reçu les premières tables, on n'aurait jamais été le peuple qu'on est malheureusement depuis 4000 ans. Gentil, mignon. Ben oui, on est des gentils mignons, nous les juifs. D'accord? Ben oui, on est drôlement des gentils mignons. Eux, ils tirent sur nos civils, mais nous, on ne tire pas sur leurs civils. Hein. D'accord? Gentil, mignon. Et comme en français, le C est à côté du B. On est très bon. Et on va une lettre plus loin, vous avez compris. Très bien. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'on est victime de la Torah qu'on a reçue. Les deuxièmes tables. La Torah de Aaron. La religion. D'accord? Ne dites pas du lachon hara, Dieu va punir. Soyez gentils. Faites la tzedaka. Et quand on vous insulte, baissez la tête. Ben oui, c'est la Torah qu'on a reçue. Je ne dis pas que c'est faux. Mais le problème, c'est que quand pendant des millénaires, on nous rabâche constamment, soyez gentils, soyez gentils, soyez gentils, soyez gentils. D'accord? Vous voulez que j'hurle? D'accord? Quel pays aurait accepté que des enfants tombés au combat soient toujours détenus par le Hamas et jusqu'à aujourd'hui, on ne fait rien pour les récupérer? Mais ne dites pas qu'on n'est pas des idiots, mais arrêtez de toujours dire le peuple élu. Arrêtez! Vous imaginez les Français accepter une chose pareille? Les Allemands? Les Belges? Comment?
On les soigne. Il y a la nièce d'Ismaël
Hanier. Oui. Et en ce moment, non, arrêtez, je vais mourir.
Non, moi aussi. Hein.
En ce moment, la nièce d'Ismaël Hanier, le chef du Hamas, est soignée dans un hôpital israélien. La nièce du chef du Hamas. Mais ça, en France, on ne le dira jamais. Donc on n'est pas un peuple de tarés.
Si.
Bravo. Enfin, quelqu'un qui a le courage de reconnaître ce qu'on est. Mais on est des tarés. C'est pas possible. Mais vous imaginez la France soigner la nièce d'un terroriste qui place des bombes en France et qui envoie des missiles sur les civils et qui tue deux enfants, un de 5 ans et un de 6 ans, sans compter tous les autres et toutes les maisons détruites et tous les blessés et tous les morts pendant le dernier conflit, dont deux enfants, un de 5 ans et un de 6 ans, et on dit à la fille, la nièce du chef du Hamas, viens te faire soigner chez nous. C'est pour ça que le Erevra voulait Aaron. Parce que Aaron, comment qu'il est appelé dans la Torah? C'est le modèle de tu aimeras ton prochain comme toi-même. La phrase qui endort tous les peuples. La phrase qui nous rend faibles. Vous savez que Hillel, et ça c'est fabuleux, Hillel refusait d'expliquer cette phrase comme elle est écrite dans le Talmud. Vous connaissez cette histoire incroyable dans le Talmud qu'un jour, quelqu'un qui voulait se convertir vient voir Shammai et il lui dit « Je voudrais me convertir pendant que je suis sur un pied. Résume-moi la Torah quand je suis sur un pied. » Qu'est-ce que fait Shammai? Lui, c'est un Ashkenaz. Il prend son bâton, il lui tape sur la tête, il dit « Fous le camp. » D'accord. Après, il va chez Hillel. Hillel, c'est un Marocain. Alors, il va chez Hillel, le Sfarad, il lui dit « Voilà, je veux que tu m'enseignes toute la Torah quand je suis sur un pied. » Hillel lui dit « Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. » Et tous les commentaires posent la question « Pourquoi Hillel ?» Tout le monde a compris que c'est en vérité la traduction dans le langage de Hillel de « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Pourquoi Hillel n'a pas dit le verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Pourquoi il a dit « Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. » Parce que Hillel ne pouvait pas supporter le verset tel qu'il est écrit. L'amour, l'amour, l'amour. D'accord? Je suis désolé de vous parler comme ça. Je suis désolé, mais dites-moi. Dites-moi. Si on avait tué, parce que c'est pas 6, c'est 9. Si on avait tué dans les camps de concentration 9 millions de Français. À votre avis, qu'est-ce qui se serait passé après la guerre? Des milliers de Français auraient été en Allemagne, auraient massacré des milliers d'Allemands. Les Juifs n'ont pas tué d'une manière terroriste un seul Allemand. On a attrapé Eichmann, etc. On l'a jugé, il y a eu un jugement, etc. Mais je ne sais pas, normalement, ceux qui sont sortis des camps, ils auraient dû se faufiler en Allemagne et faire sauter des bars, faire sauter des restaurants. C'est tout à fait normal, mince. Ah non, c'est pas normal? Mais c'est tout à fait normal, mais n'importe quel pays aurait fait ça. Non, nous. Le premier avion israélien avec le Magen David se pose 4 ans après la Shoah à Berlin. C'est le premier endroit où un avion israélien se pose à Berlin. Quand la majorité des Israéliens ont accepté les réparations allemandes, il y en a un qui a refusé. Il a dit non. Parce que si vous acceptez les réparations allemandes, évidemment, les déportés auront du fric. Mais d'un autre côté, c'est comme si d'une certaine manière, vous acceptiez une relation avec eux. Qui était celui qui a refusé les réparations allemandes? Begin. Il n'a pas été écouté. Et pourquoi il a refusé? Parce qu'il a dit, tu ne peux pas accepter les réparations allemandes. Ça veut dire quoi? Parce qu'on va recevoir un déporté, va recevoir jusqu'à la fin de sa vie, à, je ne sais pas moi, 2000 euros par mois, ça va racheter ce qu'on lui a fait? On n'accepte pas. Il n'y a pas de réparation possible à une telle catastrophe. On n'accepte pas. On ne l'a pas écouté, mais il avait raison. On n'aurait jamais dû accepter. Mais pourquoi? Mais parce que le juif, il comprend le verset tel qu'il est écrit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Et avec les réparations, en allemand, ça se dit « gut wieder machen », c'est-à-dire « refaire le bien ». C'est cynique.
Comment? Non, ça n'a pas sauvé beaucoup de vies. Ça a fait que le pays, enfin maintenant ça commence à changer, le plus allié d'Israël pendant 70 ans, c'était l'Allemagne. Le pays le plus ami d'Israël pendant 70 ans a été l'Allemagne. Et c'est plus ou moins encore aujourd'hui comme ça.
C'est l'Allemagne qui a voté contre la motion de l'ONU.
D'accord, mais c'est normal. C'est normal. qu'on considère l'Allemagne comme le pays le plus ami d'Israël. C'est normal, après ce qu'ils nous ont fait. Non. Mais pourquoi? Parce que, encore une fois, les deuxièmes tables ne sont pas une Torah guerrière. C'est une Torah religieuse. Et c'est pour ça qu'ils ont été choisir à Aaron pour que l'identité juive se transforme en culte divin, c'est-à-dire en synagogue. Et ça a réussi. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi les explorateurs ne voulaient pas perdre leur pouvoir, pas uniquement pour un problème de ego, mais pour un problème qu'ils pensaient, n'ayant jamais reçu les premières tables, n'ayant reçu que les deuxièmes tables, qui étaient représentées par Aaron et non par Moshe, un guerrier, ils ont compris que quoi ? Que finalement, le but du juif était uniquement le culte divin, servir Dieu. Puisque c'est ça, Aaron. Il sert dans le temple. Mais le temple, c'est pas la réalité, c'est pas la matière. Le temple, c'est une chose importante. Mais c'est uniquement l'aspect spirituel, l'aspect religieux. Il y a des tas d'autres dimensions dans la vie. Il n'y a pas que le temple. Même si le temple est à Jérusalem. Le temple incarne le service divin. Mais non toute la réalité. Et non l'essence de la réalité et l'essentiel de la réalité. Qui est de chasser le mal pour y dévoiler la présence d'Hachem. Et donc les explorateurs, qu'a été leur faute en vérité? Ayant reçu les deuxièmes tables, les explorateurs se sont dit, Israël a été choisi pour consacrer toute sa vie au culte divin. Nous sommes des enfants de la synagogue. Voilà. Et c'est pour ça que quand ils ont vu la terre d'Israël, et qu'ils ont compris que 99% des juifs allaient devenir des agriculteurs, ils se sont dit, mais attends, il y a suffisamment de d'autres peuples pour être des agriculteurs. Nous, notre mission, c'est de servir Dieu. Et dans le désert, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le désert? Toute la journée, ils servaient Dieu. Puisque pas besoin de travailler, la manne tombe du ciel, pas besoin d'aller chercher de l'eau, elle sort du rocher, d'accord? Il y avait des installations de Masganim partout, c'était les Ananim qui les protégeaient du soleil, etc. Donc ils vivaient complètement pris en charge par Dieu, et la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était du matin au soir étudier et prier. Et comme ça a duré un an, jusqu'à ce que Hachem leur dise de rentrer en Israël, pendant un an ils se sont tellement habitués à concevoir que Israël était sorti d'Égypte uniquement pour le service divin, que quand ils ont vu la réalité, la terre d'Israël, et qu'ils ont compris qu'il va falloir maintenant remonter les manches, se mettre sur un tracteur et travailler, ils ont dit, mais non, ça c'est pas pour nous, il y a 70 peuples pour ça. Nous, on est les prêtres de Dieu. Et ils ont refusé de rentrer en Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont causé? Auschwitz et Treblinka. Parce que quatre exils, c'est aussi Auschwitz et Treblinka. Eh oui. Vous connaissez le livre du Rav Teichtel, Emma Banim Smecha? Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? C'était un satmer. Un antisioniste comme ce n'était pas possible. Un de ceux qui hurlaient toute la journée, ne vous alliez pas à ces racailles qui mangent pas cachère, qui font pas shabbat, ils veulent vous ramener en Israël pour faire de vous des goy. D'accord. Un satmer, c'était. Est arrivée la Shoah. La Shoah l'a tellement bouleversé qu'il a compris que c'était trompé toute sa vie. Et il a écrit ce fameux livre, caché, sans livre, sans rien. À chaque fois, il écrit toutes les deux lignes, il écrit, si jamais j'ai fait des erreurs, ne m'en voulez pas, j'ai aucun livre pour voir mes références. Il n'y a pas une référence qui est fausse sur un livre de 600 pages. Un génie, un géant de la Torah. Et tout son livre est écrit avec des larmes. Il pleure. Mais comment j'ai pu me tromper? Comment j'ai pu ne pas comprendre qu'en vérité, même si effectivement, comme je l'ai toujours expliqué, ceux qui nous ramènent en Israël sont loin d'être des modèles du juif authentique, mais c'est Dieu qui se cache en eux. Pour cacher le retour d'Israël sur sa terre et cacher le processus de la délivrance. Comme je l'ai des milliers de fois expliqué, comment Hachem a caché la venue de Ruth, qui est appelée la mère de la royauté, un père qui couche avec ses filles. Comment Hachem a amené Peretz, le père de la royauté, un homme qui va avec une prostituée. Et pourquoi tu fais ça, Hachem, mince? Tu ne peux pas le faire d'une manière normale. Parce que Hachem sait qu'il faut cacher le processus de la délivrance. Parce que si le processus de la délivrance est trop visible, tout le monde va s'y opposer. Parce que dans le fond, personne ne veut le Mashiach. Tout le monde en parle, mais personne ne le veut. Pourquoi? Comment je vais faire du fric une fois qu'il sera là? Comment je vais faire? Donc on ne le veut pas. Il va faire de nous après des gens gentils. On n'a pas envie d'être gentil. Voilà. Donc on ne veut pas le Mashiach. C'est pour ça qu'il ne même pas y téléphone. Il n'envoie même pas un SMS, rien. Dire je suis là, je ne suis pas là, rien du tout. On ne sait même pas où il est. Donc, on comprend ce qui se passe. Allez. Donc en vérité, pourquoi il a dit « Tu ne feras pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse » Parce qu'il ne voulait pas dire le verset tel qu'il est écrit. Il ne voulait pas prononcer le mot « amour » parce que le mot « amour » nous tue. Toute la civilisation occidentale est fondée sur l'amour. Love, love, love. On voit ce qu'elle est devenue, la civilisation occidentale, la plus tarée de toutes les civilisations qu'il y a jamais eu sur Terre. La débauche, la chute, il n'y a plus rien en jeu, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien, 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 rien. Pourquoi tu aimeras ton prochain comme toi-même? Hillel était un vrai maître d'Israël. Il a compris que cette phrase-là, dite telle qu'elle, elle est dangereuse. Il l'a transformée et il a dit « Tu ne feras pas à l'autre que tu ne veux pas qu'on te fasse » sans parler d'amour. Cette phrase-là, je peux la comprendre. « Ne fais pas à l'autre que tu ne veux pas qu'on te fasse » ça, je peux comprendre. Mais « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » il a refusé de le dire. L'autre, qui était sur son pied, quand il a entendu cette phrase et qu'il a compris la sagesse de Hillel qui avait eu le courage de transformer un verset de Dieu pour l'expliquer d'une autre manière, il a dit « Maintenant je me mets sur mes deux jambes, j'ai tout mon temps, je me convertis. » Parce qu'il a compris que les maîtres d'Israël savaient lire la vraie Torah et ne restaient pas coincés dans la vitrine. Et c'est comme ça qu'après il est devenu un très grand élève de Hillel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé encore une fois avec les explorateurs? Les explorateurs ont fait l'erreur qui nous accompagne depuis des millénaires. De croire que la Torah, c'est un but en soi. Et de ne pas comprendre que Hachem nous a choisis pour être des guerriers qui se battent contre le mal. Et donc, bien sûr qu'il y avait de l'ego aussi. Il y avait ce problème-là. Et c'est ce que le Rav Tertel a compris. Quand est arrivée la Shoah, il a eu une sorte de roi à Kodesh. Il a compris qu'en vérité, que tout ce qui nous arrive, c'est parce que Israël a refusé de participer à ce mouvement de retour sur sa terre. Et que 90% des Juifs s'opposaient à ça. Finalement, c'était que les laïcs qui acceptaient le mouvement. Mais comme une grande majorité était encore plus ou moins religieux à cette époque-là, ils ont tous refusé. Et finalement, il s'est caché dans un grenier. Jusqu'en 1944, il a été dénoncé, il est parti à Auschwitz, et comme j'ai déjà expliqué, il a survécu à Auschwitz plusieurs mois, et après il est rentré dans la marche de la mort, quand ils ont évacué Auschwitz, quand les Russes commençaient à venir, et pendant la marche de la mort, il est intervenu pour protéger un ami à lui qu'un nazi voulait tuer, parce qu'il ne marchait pas suffisamment vite, et le nazi a tiré une balle sur son ami, il a sorti un couteau et il lui a arraché les deux yeux. Et il est mort comme ça. Et ils l'ont laissé crever sur le sol, et c'est comme ça qu'il est mort. Personne ne savait qu'il avait écrit un livre de 600 pages quand il était caché dans le grenier. Et à la fin de la guerre, quand les propriétaires du grenier, c'est pas eux qui l'ont dénoncé, ce sont des voisins, c'était des Hongrois non-juifs qui l'ont protégé, qui l'ont sauvé. Enfin, sauvé en grande partie. Après, ils sont rentrés dans le grenier. Ils ont vu qu'il y avait une planche qui était un petit peu branlante. Ils l'ont soulevée. Ils ont vu 600 pages. Et c'est comme ça que le livre Emma Banim Smecha est sorti, grâce à ces non-juifs qui auraient pu le jeter à la poubelle. Et aujourd'hui, ce livre-là nous accompagne et nous montre à quel point même un satmer a compris son erreur. Et donc, maintenant, on va aller plus loin, mes amis. Le mot « meraglim », les explorateurs, qui vient du mot « regel ». Regardez. voyez le mot meraglim, mem, resh, gimel, lamed, yud, mem. Il y a le mot regel dedans, qui est au milieu du mot maïm. Mem, yud, mem, meraglim, et le mot regel. Quand on a les pieds dans l'eau, parce que le regel, il est dans maïm, le mot meraglim fait allusion aux pieds qui sont dans l'eau. Quand on a les pieds dans l'eau, on voit les pieds? Non, puisque les pieds sont dans l'eau. Dites-moi, l'eau, nos maîtres expliquent, c'est quoi l'eau? En maïm est la Torah. L'eau fait allusion à la Torah. Et les pieds font allusion à quoi dans toute la Torah de nos maîtres? À la Malchut. Comme il est dit, en ce jour, il posera ses pieds sur le Har Azetim. C'est-à-dire que la Malchut se dévoilera sur le mont des Oliviers. Comme on le sait d'après notre tradition, avec l'olive, on fait l'huile. Et l'huile est comparée à la Chochma. Il y aura une union, le Mashiach va faire l'union entre la sagesse de la Torah et la Malchut. Il va enfin réunir la pensée et l'action. C'est pour ça que ses pieds se poseront sur le Har HaZetim. Le Mashiach sera le premier maître d'Israël. Pas le premier, il y en a eu d'autres avec lui, il y a eu Rabbi Akiva, mais le premier qui va aller jusqu'au bout à unir la sagesse avec l'action. Les pieds et l'huile. Et donc, nos maîtres expliquent que le pied fait allusion à la royauté, c'est-à-dire le dévoilement de la royauté d'Hachem. Pourquoi? Parce que seulement ceux qui s'occupent de dévoiler Hachem dans ce monde font avancer le monde. Le pied nous permet de marcher. Et comment s'appellent les fêtes en hébreu? Regalim, les pieds. Quel drôle de nom pour dire une fête. Parce que les trois fêtes dévoilent la royauté d'Hachem dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on les appelle les pieds. Et pourquoi les explorateurs sont appelés les Meraglim? Parce qu'eux, ils ont noyé la Malchut dans la Torah. Ils ont refusé de dévoiler la Malchut. Ils ont voilé la Malchut dans la Torah. C'est-à-dire, comme le pied qui est dans l'eau, on ne voit plus le pied. Ils ont pris Regel, la Malchut, ils l'ont fait rentrer dans Maïm, la Torah, comme pour dire, l'essentiel, c'est pas le dévoilement de la Malchut, de sortir le pied de l'eau, mais l'essentiel, c'est quoi? C'est la Torah. Tout doit rentrer dans la Torah, et la Malchut, on n'en a rien à faire. Et c'est pour ça que nos maîtres disent, au moment de la délivrance finale, Hachem dira à tous les tzadikim de toutes les générations, vous vous êtes occupés de ma Torah, mais qu'avez-vous fait pour dévoiler ma Malchut? Parce que vous étiez des Meraglim, vous avez mis la Malchut dans la Torah, et vous avez empêché qu'elle se dévoile. Et c'est exactement la situation dans laquelle on vit aujourd'hui. Mes amis, allons un petit peu plus loin. Qui est le premier dans la Torah qui a appelé des autres Meraglim avant la parasha des Meraglim? Qui est le premier qui a appelé d'autres que lui-même des Meraglim dans la Torah? Yosef. Quand ses frères sont arrivés en Égypte, il les a traités de Meraglim. Tiens. Et le Balatourim fait un lien inimaginable et il dit, parce que Yosef a vu Beruach HaKodesh qu'un jour les tribus d'Israël seraient des... les chefs des tribus d'Israël seraient des Meraglim. Mais malgré tout, les commentaires posent la question, d'accord, bon, il a vu Beruach HaKodesh, mais pourquoi il les appelle eux Meraglim? Vous savez, je l'ai déjà dit des milliers de fois, je vais me répéter un petit peu, le seul personnage dans toute la Torah qui est appelé tzadik, c'est qui? C'est Yosef. Yosef, il a passé toute sa vie avec un livre dans les mains dans une synagogue? Non. Toute sa vie, il était sur terre, avec des épreuves de folie, à tout faire pour essayer d'améliorer ce monde matériel. 80 ans de sa vie, il l'a passé comme dirigeant de l'Égypte. Ça veut dire le pays le plus débauché, le plus corrompu, le plus idolâtre. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Il n'est pas tombé une seule fois. D'accord? Ah, il a passé avant ça 12 ans en prison. J'ai déjà expliqué toutes les épreuves qu'il avait en prison. Un beau gosse comme ça, toute la journée, il était poursuivi pour être violé. Des atrocités incroyables, il a passé. Et ne parlons pas qu'il a été vendu comme esclave à l'âge de 17 ans. Donc un homme qui toute sa vie est en contact avec la réalité et n'est jamais tombé. C'est pour ça qu'on l'appelle tzaddik. Là aussi, tous ceux qui étudient la Torah savent, mais personne ne comprend. Pourquoi lui est appelé tzaddik ? Pour nous faire comprendre que seul un homme qui est dans la réalité, confronté aux épreuves, aux difficultés de ce monde, et qui ne tombe pas, peut être appelé tzaddik. Mais celui qui toute la journée est avec un livre déconnecté de ce monde, c'est un bon juif, un homme bien, mais c'est pas un tzaddik. Et aujourd'hui, ça fait des millénaires qu'à chaque fois qu'on trouve quelqu'un qui est toute la journée enfermé avec un livre, on dit tzaddik, tzaddik, tzaddik. Non, c'est un bon juif, il fait de mal à personne. D'accord ? Mais c'est pas un tzaddik. Non, c'est pas ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est Yosef, le seul qui est appelé tzaddik. Maintenant, regardez le mot tzaddik. Et là, vous allez tomber par terre. Tzaddik, dalet, yud, kuf. Premier, prenez la première et la dernière lettre. Vous avez le mot ketz, qui en hébreu veut dire délivrance. Vous prenez les deux lettres du milieu. Dalet, yud, gematria 14, David. La délivrance du Mashiach. Puisque le Mashiach est appelé Ben David. Je répète, Tzadik Kuf Ketz Geoula, au milieu Yud Dalet Gematria 14, Gematria David. Ketz Geoula, Geoulat David. Tiens, Yosef porte en lui le nom de David, qui est le symbole du Mashiach, et Ketz qui veut dire délivrance. Mais pourtant, il s'est quand même battu contre Yehuda, duquel doit sortir David. C'est incroyable, ça. Quel rapport. Mais parce que, c'est sûr, il avait 17 ans, il était en pleine puberté, il a exagéré. Mais dans le fond, il avait raison. C'est vrai, il a exagéré à l'égard de ses frères. Vous vous prosternez devant moi, tête à claque. Non mais attends, pour qui tu te prends ? Mais dans le fond, il avait raison. Seulement, ayant 17 ans, il n'a pas su s'exprimer. Il n'a pas su. Après, il s'est corrigé avec toutes les épreuves qu'il a eues. Il est devenu un vrai tzaddik. À 17 ans, ce n'était pas un tzaddik. Mais les rêves étaient authentiques, les rêves étaient vrais. Seulement, lui, il s'est précipité à venir énerver ses frères. D'accord ?
Et Jacob même a attendu de savoir à quel moment il allait se prosterner.
Bien sûr. Jacob savait que les rêves étaient vrais. Mais d'un autre côté, il savait que Yosef se comportait mal. Donc d'une certaine manière, il a mérité ce qui lui est arrivé. Il était trop agressif à l'égard de ses frères. Mais les rêves étaient vrais. Qu'est-ce que ça veut dire, vous prosterner devant moi ? Ça veut dire qu'en vérité, Yosef est le symbole de la révolution, de la délivrance finale. Je vous l'ai déjà dit. Comment s'appelle la Torah du Mashiach ? Torah mi Tzion. Qui, Mitzion, tetsé Torah. La Torah sortira de Tzion. Tous les commentaires posent la question, mais elle est déjà sortie du Sinaï depuis 4000 ans. Et nos maîtres disent, non, la Torah de Tzion, c'est la Torah du Mashiach. Et le Zohar explique, c'est en vérité le retour des premières tables qui vont remplacer les deuxièmes. Tzion, c'est la valeur numérique de qui ? Yosef. La Torah de Tzion, c'est la Torah de Yosef. Mais pourquoi sortez vos mouchoirs ? Parce que Yosef, c'est le vrai représentant de la Torah. Un homme qui est pendant 110 ans dans ce monde et qui n'est jamais tombé une seule fois. Voilà. Parce que si je suis toute la journée dans une synagogue ou dans une yeshiva et que je ne tombe pas, bien qu'aujourd'hui, malheureusement, on tombe aussi. Mais supposons que je ne tombe pas. Ben évidemment. Je suis toute la journée avec des hommes, d'accord ? Et donc, je n'ai pas de secrétaire, je vis à Bnei Brak, je vis à Mehacharim. Bon, si jamais je sors et puis qu'il y a une fille un peu mal habillée, bon ben, je ferme les yeux. Donc, je ne suis pas confronté aux séductions de ce monde. Ni aux frics, ni aux femmes, ni rien. Par contre, je vous ai déjà dit, Yosef, d'accord ? Il était tellement beau qu'à chaque fois qu'il sortait dans la rue, d'accord, en tant que dirigeant d'Égypte, toutes les filles d'Égypte couraient après lui, lui jetaient de l'argent, et lui disaient « Viens, 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 viens !» Elle devenait folle. Il n'est jamais tombé une seule fois. Donc ça, c'est un vrai tzaddik. Mais si je suis toute la journée enfermé dans un lieu de culte, je ne suis pas un tzaddik, je suis quelqu'un de gentil. Oui.
Précipiter la venue du Mashiach. Qu'est-ce que nous aurions
Eh bien, je vais vous répondre. Eh bien, je vais vous répondre, mon très cher ami. Il y a une révolution qui est en train de se passer dans le monde Haridi en ce moment.
Oui.
Merci Hachem. De plus en plus et de plus en plus d'enfants Haridim vont à l'armée dans les unités combattantes. Et après font des études et travaillent. Je le sais puisque j'ai enseigné à l'armée pendant des années. Absolument. Mais ça, personne n'en parle. Hein. La Tikhchorette n'en parle pas, elle ne le dit pas. Hein. Dans les unités combattantes les plus élitistes, aujourd'hui on a des Haridim. Des centaines, des milliers de Haridim. Dans le Givati, dans les commandos, dans les parachutistes. Il y a une révolution, mais personne n'en parle. Parce qu'il y a une sorte d'accord entre la vieille génération Haridite et le gouvernement. N'en parlez pas. Hein. N'en parlez pas. Et attention, ce n'est pas des enfants qui ont tout lâché. Des enfants qui sont de vrais Haridim. Dès qu'ils ont un moment, ils sortent un livre et ils étudient. Mais qui sont dans des unités d'élite. Combattantes. Combattantes. Moi, je me rappelle, je raconte souvent cette histoire-là. Quand j'ai commencé il y a quelques années, bon, depuis le corona, c'est fini. Bon, peut-être ça reprendra, j'en sais rien. Mais pendant le corona, on ne pouvait plus aller à l'armée. Depuis, pendant presque un an. La première fois que j'ai commencé à enseigner dans ces unités-là, de Haridim, qui sont dans les unités combattantes, on m'a envoyé sur un lieu d'entraînement. J'arrive là-bas, c'est-à-dire, bon, je vais en voiture jusqu'au camp. Après, une Jeep est venue me chercher, etc. M'a amené dans un désert, c'était à la frontière de l'Égypte. Parce que les camps d'entraînement du Givati sont à la frontière de l'Égypte. Et donc on m'emmène dans un camp, je vois tous ces jeunes. Ils avaient passé toute la journée à des choses incroyables, quoi, qu'on ne peut même pas raconter, ce qu'ils vivent comme entraînement. Et puis ils s'écroulent par terre, et puis j'en vois plusieurs qui sortent un livre de Tehilim, ou un Tanya, ou un Likutei Moharam, en miniature comme ça, et qui se met à étudier. Je vous garantis, de ma bouche à Hachem, j'ai pleuré comme une fontaine. J'ai pleuré, j'arrivais pas à m'arrêter. J'arrivais pas, et puis je m'approchais d'eux, ils m'ont vu avec mes larmes, ils m'ont dit, Rav, qu'est-ce qui vous arrive, pourquoi vous pleurez? Je leur ai dit, je pouvais pas croire ça. Après, vous êtes tout noir de poussière, vous avez du sable partout, vous êtes... Et on vous donne 10 minutes de repos, et vous sortez un livre pour étudier? Je dis, mais vous êtes l'armée du roi David. Vous êtes l'armée de la délivrance. Et il y en a des milliers comme ça aujourd'hui. Avant, il y a toujours les Datim, les Oumim. Eux aussi. J'ai enseigné aussi de nombreuses fois aussi. Chez eux aussi. Donc, il faut savoir, mes amis, vous voulez que je vous dise quelque chose? Dans 10 ans, et peut-être moins, 99% des soldats d'Israël auront une kippa sur la tête. Parce que les chilonim s'engagent de moins en moins, et les datiim et les charidim de plus en plus. Voilà. Les charidim, c'est inimaginable. Inimaginable. Et encore une fois, ce ne sont pas des enfants qui sont tombés. D'accord. Et vous savez, parmi les charidim, ceux qui s'engagent le plus à l'armée, les chabad. Alors eux, ils continuent officiers, etc., etc. Et alors, j'ai vu quand arrivait le moment de la prière de Minra, j'allais toujours dans l'après-midi, d'accord. Alors, même quand on était dans le désert, quoi, dans les lieux d'entraînement, alors ils avaient un sac comme ça, un petit sac comme ça, et puis je vois, ils sortent leur chapeau, ils enlèvent leur casque, et ils mettent leur chapeau sur la tête pour prier. C'est la deuxième fois que j'ai pleuré aussi. Je dis, c'est pas possible. J'arrivais pas à me retenir. Je me dis, c'est pas possible. Un soldat qui enlève son casque, qui met un chapeau sur la tête pour prier, en plein désert, à la frontière de l'Égypte, me dit, mais Hachem, mais tu es en train de sauver le monde.
C'est ce qui pourrait hâter la venue du Mashiach.
C'est ça qui va hâter la venue du Mashiach. Vous n'imaginez pas, mais c'est tenu en secret, personne n'en parle. Vous n'imaginez pas. Je pourrais dire qu'aujourd'hui, 2 enfants Haridim sur 3 vont à l'armée aujourd'hui. Ils ont des cours tous les jours. Le Shabbat, il y a des rabbanim qui viennent pour passer Shabbat avec eux, etc. Des choses absolument folles qui se passent. Oui.
Pardon, il y a des sociétés commerciales, elles emploient des dames Haridim et elles leur donnent un petit bureau à elles seules. Et mes enfants, ils font ça.
Absolument.
Et c'est des femmes, ils m'ont dit, elles sont très fortes, on les paye comme les autres.
Et dans la high-tech surtout.
Parce qu'il y a beaucoup qui profitent, qui les payent moins.
Oui. Il y a énormément.
Elles sont petites pour elles, entre elles. Donc, elles sont isolées dans leur petite cabine, quoi. Et elles travaillent.
Je suis 100% d'accord avec vous. Il faut savoir aujourd'hui le pourcentage de femmes religieuses qui travaillent dans la high-tech en Israël. C'est inimaginable. Inimaginable. Les grosses sociétés de high-tech. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez posé la question parce que vous ne le savez pas vraiment, parce que personne n'en parle. Mais sachez qu'il y a une révolution dans ce pays qui est en train de se passer, que de plus en plus d'enfants religieux comprennent qu'ils ne peuvent pas passer toute leur vie avec un livre. Et encore une fois, ils ne laissent pas tomber la Torah, mais ils s'ouvrent vers le monde. Ils font l'armée, après ils font des études et ils apprennent un métier. Et tout en continuant à être Shomer Torah et Mitzvot, mais il s'ouvre vers le monde. Et ça, c'est la reconstruction de l'identité juive authentique. Vous savez, mon ami, que dans l'armée du roi David, disent nos maîtres dans le Talmud, quand quelqu'un voulait rentrer dans l'armée du roi David, on faisait une enquête sur lui. Quelle était l'enquête? Est-ce qu'il va 3 fois par jour prier à la synagogue? Combien d'heures il étudie la Torah? S'il fait toutes les Mitzvot? Et seulement à ce moment-là, on l'engageait. L'extrême absolu contraire de ce qui existait en Israël jusqu'à cette révolution du monde religieux qui commence à s'engager. Vous savez que nos maîtres nous disent que si on prenait même un officier à l'époque du roi David, parler pendant la prière, on le foutait dehors de l'armée. Parler pendant la prière. Tellement on n'acceptait que des gens d'un niveau spirituel très très haut. Alors je pose une question idiote, mais s'ils sont d'un niveau spirituel très très haut, alors qu'est-ce qu'ils font dans l'armée? Parce que c'est ça l'homme authentique. La puissance de l'âme alliée à la puissance du corps.
Oui, la Torah c'est pour vivre, c'est pas le contraire.
Mais bien sûr. C'est pour ça que la Torah s'appelle Torah Tchaïm. Et c'est quoi la vie? C'est l'union entre le corps et l'âme. C'est quoi la mort? C'est la séparation entre le corps et l'âme. Bravo de ce que vous avez dit. Torah Tchaïm, ça veut dire que tu n'es un homme de Torah authentique que si tu as à la fois la puissance du corps et la puissance. Voilà. Je raconte juste une petite histoire, après encore 10 minutes. J'ai déjà raconté cette histoire-là, mais j'ai eu le bonheur et le mérite de connaître le père du Rav Chaim Kanievski, le Stipler. Quand j'étais à l'Yeshiva Bnei Brak, il y a 40 ans, je l'ai connu. Et donc, le père du Rav Chaim Kanievski. Et donc, un jour, on était comme ça, un groupe d'élèves, chez lui, et il nous a raconté une histoire absolument fabuleuse. Il est né en Russie, il vivait en Russie, et un jour, ça se faisait constamment, c'est ce qu'on appelle les cantonistes, les soldats russes rentraient dans les villages juifs, et ils prenaient de force les juifs pour les enrôler dans l'armée, dans le but de les assimiler complètement, et puis bon, là, 99% ne sont jamais revenus. Après, ils se sont mariés avec des Russes, des non-juifs, et puis ils ont tout lâché. Parce que je crois que c'était 20 ou 30 ans qu'on les mettait à l'armée. Voilà, les cantonistes, on les appelait. C'était dans le but de détruire le peuple juif. Et lui, il s'est fait choper comme ça aussi. Mais lui, c'était le Stipler. Même à 18 ans, il était déjà un Talmid Chacham. Et donc, on le met de force dans la caserne, en plein hiver, en Sibérie. Combien il fait dehors? Moins 70, presque. Avec le vent, moins 70, c'est sûr. Très bien. Et donc, on l'appelle un Shabbat pour monter la garde. Monter la garde, il va rester pendant 2 heures dans le froid le plus terrible pour monter la garde. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une grande, comment on dit, un manteau de fourrure énorme, d'accord, que chaque gardien mettait sur lui pendant son bon, il faisait froid quand même, mais pendant son temps de garde. Lui, il sort avec ses habits comme ça, tout gelé, etc. C'est en plein Shabbat. Et il voit le manteau accroché à une branche d'arbre. Là, vous avez le droit de dire que les juifs sont tarés. Mais il y a une halakha qui nous dit qu'on n'a pas le droit de décrocher quelque chose, le Shabbat, qui est accroché à une branche d'arbre. De peur de quoi? De peur de casser la branche. Et si tu casses la branche, c'est un issur Torah. Donc les chachamim, ce n'est pas une loi de la Torah. C'est une loi des maîtres d'Israël, tu ne décroches pas de la branche, de peur de la casser, et là tu fais un issur Torah. Voilà. Alors, lui, il voit ça, et c'est lui qui nous raconte cette histoire, le Stipler. Et Il voit ça, il dit, bon, moi, de toute façon, piquoir les fesses. Comme vous avez dit, je vais mourir, je ne pourrai pas tenir. Donc c'est sûr que j'ai le droit de le prendre. Même de casser la branche, puisque c'est pour ma vie. Il s'approche de la fourrure, et puis il se dit, bon, mais une minute, tu peux quand même tenir. Une minute encore, tu peux tenir, sans prendre la fourrure. Et au bout d'une minute, il s'est dit, bon, allez, tiens encore quelques secondes. Et puis il a tenu pendant 2 heures, sans prendre le truc. Je l'ai entendu de sa bouche, hein, et c'est pas un menteur. Il faut être sûr que le stapler, c'est pas un menteur. Il a tenu 2 heures dans un petit habit de soldat, en Sibérie, en plein hiver, sans décrocher. À chaque fois, il disait, bon, encore quelques secondes, encore quelques secondes, encore quelques secondes. Et finalement, il a tenu 2 heures. D'accord. Alors, ça, mais je vais vous dire ce qu'il nous a dit après. J'allais dire, ça, c'est vraiment le modèle de la Torah. Et vous savez ce qu'il nous a raconté après? Alors, il a baissé la tête parce que, bon, il était très, très humble, un vrai maître. Il a dit, bon, tout le monde dit que je suis devenu quelqu'un de très, très, très grand dans la Torah. Mais vous savez ce qu'il nous a dit? Il a dit, moi, je sais que c'est parce que j'ai tenu cette épreuve que je suis devenu ce que je suis devenu. Il n'a pas dit parce que j'étudie 23 heures sur 24, parce que je prie 23 heures sur 24, parce que j'ai tenu cette épreuve, c'est ce qui a fait de moi ce que je suis devenu. Il a compris que la racine de sa grandeur, c'était justement une action, une épreuve qu'il a tenue et qui après lui a ouvert toutes les portes de la Torah. Il est devenu l'un des plus grands maîtres de notre génération, comme on le sait. Et il a reconnu que c'était cette épreuve qu'il avait. Donc qu'est-ce qu'on voit? Comme Yosef HaTzadik, le vrai juste sait que ce n'est pas uniquement le fait de vivre une vie entièrement spirituelle qui fait de toi un grand. C'est le fait d'être confronté à ce monde et de tenir. C'est ça ce qui fait de toi un grand, un vrai grand. Pourquoi nos maîtres nous disent que toute la Torah chez Béalpé, toute la Torah orale, elle a comme source Rabbi Akiva? Parce que Rabbi Akiva, toute sa vie, c'était un combattant. Entre autres, c'est lui qui a soutenu la révolte de Bar Korba contre les Romains. Ça veut dire que, et ça lui a coûté sa vie, il a été dépecé vivant. Quand les Romains ont su que c'est lui qui a poussé Bar Korba sur révolte contre les Romains, ils l'ont attrapé et avec de tenailles, ils lui ont arraché toute sa peau. Donc ça veut dire qu'il savait très bien qu'il mettait sa tête à prix. Mais c'est ce qui a fait de lui Rabbi Akiva. Que toute la Torah qu'on a aujourd'hui, elle vient de lui et de ses élèves. Pourquoi? Parce que c'était un combattant. Et donc c'est ça la faute des explorateurs. Maintenant regardez, on a dit que dans le mot donc tzadik, il y a la délivrance de David, la délivrance du Mashiach. Parce que justement c'est ça la Torah de Tzion. Une nouvelle Torah qui va se dévoiler à nous et qui commence à se dévoiler. Voilà, j'ai fait cette introduction grâce à votre magnifique question. Qu'on commence à voir la Torah de Tzion se dévoiler en Israël. Car de plus en plus de religieux maintenant commencent à comprendre qu'ils ne peuvent pas vivre uniquement enfermés dans un monde spirituel. Il faut qu'ils s'ouvrent à ce monde. Et encore une fois, leur grandeur, c'est que malgré tout, ils restent des gens pratiquants. Des gens, bon, j'aime pas le mot religieux, mais c'est pas grave. Ils restent religieux tout en ayant un fusil à la main. C'est le roi David. Les Tehillim dans une main et le fusil dans l'autre. Ça, c'est l'homme authentique. Comprenez? Et croyez-moi, je vous le dis encore une fois, dans 10 ans, 90% des soldats en Israël auront une kippa sur la tête. Et là, ça sera vraiment la dernière phase avant la délivrance. Parce que c'est ce que Hachem attend de nous.
Et ça dit que c'est aussi Tzedek.
Justice. Et justice, c'est ce monde. Rendre justice dans ce monde, absolument. Bravo. Tzadik, c'est aussi Tzedek, rendre justice dans ce monde. Ça veut dire s'occuper d'améliorer, de moraliser ce monde. Et maintenant, je voudrais juste terminer. Vous savez qu'on va bientôt entrer dans la semaine des 3 semaines, qui commence avec la faute du veau d'or, 17 Tammuz, et qui se termine à Tisha B'Av, la faute des explorateurs. Et tous les commentaires posent une question. Maintenant, la faute des explorateurs a eu lieu 1 an après la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est 50 jours après la sortie d'Égypte, d'accord, pendant qu'on recevait les premières tables. Et la faute des explorateurs, c'est bien après, plus d'un an après. Donc pourquoi ces 3 semaines commence par la faute du veau d'or et se termine par la faute de Tisha B'Av. Regardez. On a expliqué que la faute du veau d'or, encore une fois, c'est finalement cette volonté d'une partie d'Israël, surtout le Erev Rav, de déraciner Israël de la vraie Torah pour le faire rentrer dans la religion, comme tous les peuples jusqu'à aujourd'hui. Tous les peuples aujourd'hui n'ont que la religion. Ça veut dire ce qui nous affaiblit. Et vous savez ce que le Zohar ose dire ? Qu'en vérité, que le venin du serpent, c'est la religion. Parce que qu'est-ce que c'est la religion en vérité ? C'est ce qui affaiblit les peuples. C'est ce qui nous transforme en gens faibles, passifs, de vouloir être pris en charge par Dieu. C'est ça la religion. Alors que la vraie Torah de Tzion, c'est la Torah du roi David, la Torah du Mashiach, où il va sortir avec une armée pour se battre contre tous les méchants de ce monde, pour purifier ce monde et le ramener à Hachem. Ça, c'est la vraie Torah. Donc, la faute du veau d'or, c'était de faire rentrer la religion dans le peuple juif. Et regardez Tisha B'Av, je l'ai déjà expliqué. La gématria de Tisha B'Av, elle est tombée par terre. C'est David. Ben oui. Béav, ça fait 5, 9, 9 et 5, 14, 14, Gematria David. Ce qui veut dire que Tisha Béav fait allusion à David. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à Tisha Béav ? Ben la royauté de David est tombée. Qu'est-ce qu'on dit pendant Soukot ? Arachaman ou Yakim Lanou et Soukat David à nos fêlettes. Que le maître du monde relève la soukha de David qui est tombée. La soukha de David, pourquoi on l'appelle soukha, c'est un sujet en soi, mais fait allusion à la royauté de David qui est tombée. Israël a perdu sa royauté depuis des millénaires. Et le monde entier d'ailleurs, puisque Israël est le microcosme de l'humanité tout entière. Le monde entier a perdu sa royauté, puisque surtout le monde occidental, c'est la séparation entre l'Église et l'État. Ça veut dire, t'es religieux, fous-moi la paix, va à l'Église, t'es un homme normal, viens avec moi et dirige le monde. Très bien. Donc, c'est ça le monde occidental. Et Israël est pareil. Israël, c'est aussi la séparation entre la synagogue et l'État, évidemment. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Tisha B'Av, valeur numérique David. Pour nous faire comprendre qu'à Tisha B'Av, on a fait tomber la royauté de David. C'est pour ça que le maître du monde dira à tous ceux qui ont étudié la Torah pendant toutes les générations, vous vous êtes occupés de ma Torah, mais vous ne vous êtes pas occupés de ma royauté. Donc vous voyez, on n'a même pas dans ce cours effleuré l'ombre de l'ombre de l'ombre d'un cheveu de ce qu'il y a à dire sur les explorateurs. Mais de là, on doit comprendre une chose suivante. Mes amis, le Mashiach va faire une révolution inimaginable en Israël et dans le monde entier. Il va faire tomber pour remplacer par la véritable connexion à Dieu, il va faire tomber en vérité. Le premier combat du Mashiach, ça sera de faire tomber toutes les religions. Puisque toutes les religions ont en commun que finalement, elles nous transforment en gens passifs, inactifs, faibles, moutons, qui attendent que Dieu fasse tout le travail pour nous. Et donc ça va être le premier travail du Mashiach. De redonner à l'homme son identité authentique, et pas seulement aux Juifs, à l'humanité tout entière. Et c'est ça ce que Yosef voulait faire comprendre à ses frères. Moi, je suis tzaddik parce que je suis dans ce monde. Et grâce à moi, la malchoute va se dévoiler. Et bien maintenant, vous comprenez, j'ai terminé. Pourquoi nos maîtres nous disent que Mashiach ben Yosef vient avant Mashiach ben David ? Ça sera quoi Mashiach ben Yosef ? À celui qui va réveiller les peuples et leur faire comprendre que la vraie connexion avec Hachem passe par l'action. Et non uniquement par une vie spirituelle dans un nuage déconnecté de ce monde. C'est ça, Mashiach ben Yosef. Et quand il va réussir à réveiller non seulement Israël, mais à réveiller les peuples, à ce moment-là, va venir Mashiach ben David, les pieds vont sortir de l'eau, Meraglim, la royauté va se dévoiler, et à ce moment-là, Ve'aya Hashem, les Melech al Kol Haaretz, Hashem sera roi sur toute la terre. Oui.
Chamaïm, t'as l'air de dire, Dieu fera les choses. Donc ils se sont
On est 100% d'accord. Et ce qui s'est passé à Givatzev aussi. À Givatzev aussi, on a les preuves aujourd'hui qu'ils savaient, une partie savait, que les trucs qu'ils avaient fait, les stages qu'ils avaient fait, ne pouvaient pas tenir.
C'est la raison pour laquelle le rabbin.
Mais nos maîtres le disent. Assur l'ismor à la Nes. C'est une phrase que des millions de juifs ont lue depuis des millénaires et personne ne l'accomplit. Assur l'ismor à la Nes. C'est une phrase dans le Talmud. Il est interdit de se fier au miracle. C'est interdit. L'homme n'a pas été créé pour s'en remettre à Dieu. L'homme a été créé pour prendre ses responsabilités. Alors évidemment, avec l'aide d'Hachem. Mais l'aide d'Hachem à condition que tu agisses et que tu fasses quelque chose. Et ça, c'est la vraie spiritualité. Celle que le Mashiach va dévoiler dans le monde entier.
Pour aller dans votre sens, effectivement, c'est ce que le Rav Kook disait. C'est la génération du Mashiach Ben Yosef. Ceux qui ont construit le pays au départ, malgré les marécages...
Absolument. Et combien sont morts? Des familles entières, décimées, avec la malaria, etc., etc. Mais c'est grâce à eux qu'on est là. Grâce à eux qu'on est là. Parce que s'ils n'avaient pas eu le courage de se sacrifier pour faire tout le travail qu'ils ont fait il y a 150 ans, on ne serait pas là aujourd'hui. Bien sûr. Donc c'est ça, Mashiach Ben Yosef. C'est ça la Torah de Tzion. La prise de conscience qu'un juste authentique est celui qui est accroché de toutes ses forces à Dieu, mais en même temps qui est accroché de toutes ses forces à ce monde. Ça, c'est Mashiach Ben Yosef qui amènera, Mashiach Ben David qui amènera la délivrance finale. Amen, Bezrat Hashem, l'espoir fait vivre, mais j'espère que ce ne sera pas seulement un espoir. Comment ? Oui. Absolument. Ah oui, oui, oui. Ah oui, bien sûr. Là, j'ai dit... 14, la Gematria David, mais 14, c'est aussi la Gematria Yad, qui veut dire l'action extraordinaire. Ça veut dire que finalement, la délivrance viendra grâce à la main, grâce à l'action. Mais bien sûr, parce que, en fait, David a pour valeur numérique Yad, pour dire que David, c'est l'action, justement.
Oui, justement.
Voilà.